Honte d'avoir passé 3 mois au sein des Waffen-SS dans sa jeunesse. À 78 ans, Günter Grass n'avait jamais révélé cet épisode de sa jeunesse. Les prix du pétrole au plus bas depuis 2 mois. Ce matin, il perdait encore au moins $1 au baril par rapport à hier. À New York, le Light Sweet Crude s'établit à $70.79. À Londres, le Brent s'échange à $71.70. Et tout de suite, c'est la bourse. Cédric Decoeur, la bourse est stable.
Oui, Bilal, le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché hésite depuis ce matin sur la conduite à tenir. Ainsi, après avoir ouvert en très légère hausse, le CAC 40 a ensuite basculé en territoire négatif pour finalement revenir osciller autour de son niveau d'équilibre. Actuellement, le CAC 40 abandonne 0,07%. Il est à 5133 points dans un volume d'affaires qui a déjà dépassé les 2,1 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, les places sont sur la même note hésitante. Francfort grappille 0,05%, Londres 0,06% et l'euro First 80 progresse d'un petit 0,04%. Enfin, sur le marché des changes, les dernières livraisons statistiques en provenance des États-Unis pèsent encore sur le billet vert. L'euro se négocie contre $1,2877, en hausse toujours de 0,66% face à la devise américaine. Voilà, Bilal, je vous rappelle, le CAC 40, moins 0,08%, il est à 5133 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
France Inter, il est 14h04, tout de suite l'Afrique enchantée en compagnie de Vladimir Cagnolari.
On ne vous entend plus vraiment ici, j'espère qu'on a bien l'antenne. En tout cas, nous, on vous retrouve dans une heure pour des nouvelles informations et on va traverser la Méditerranée, puis revenir, puis repartir, puis revenir. Enfin, on va faire ça, non?
Allez, retour.
Allez, on y va.
Coco! Hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah!
Vladimir Cagnolari, Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Comme chaque jour, nous vous convions à un voyage sur le continent africain, un voyage musical bien sûr, qui nous mènera aujourd'hui de part et d'autre de la Méditerranée sur les routes de l'immigration africaine en France. Il y a d'ailleurs une certaine continuité, pour ne pas dire une continuité certaine, entre les sujets qu'on a évoqués cette semaine. L'esclavage, la colonisation et puis l'immigration africaine en France comme un retour de l'histoire. Le retour, sacrée question. Pour pas mal d'immigrés, c'est un rêve, et pour d'autres, c'est une contrainte, celle d'un voyage en avion, un voyage accompagné, bracelet au poignet. Allez, suivez-nous. Aujourd'hui, nous, on va laisser voyager nos rêves de liberté. Et comme tous les jours, pour nous accompagner dans ce périple plein de périls, j'ai la chance d'être assis en face du plus libre des voyageurs devant l'éternel, celui qui n'a besoin d'aucun visa pour arriver jusqu'à chez vous, puisque tous les jours, non, il voyage par les ondes, véritable sorcier qui se déplace grâce à l'avion magique de la radio France Inter, j'ai nommé Solo Soro. Bonjour Solo.
Bonjour Vlad.
Comment ça va?
On fait aller comme d'habitude.
Bon, je te disais sorcier, et j'ai pas complètement tort, parce que si je dis pas de bêtises, on t'a pris pour un sorcier dans ton village quand tu t'es mis à animer des émissions sur la radio Côte d'Ivoire.
C'est normal, parce que chez moi, dans mon village, tout ce qu'on a entendu parler à la radio, c'était forcément des sorciers. On leur a dit qu'ils étaient à des dizaines, des centaines de kilomètres et leur voix leur parvenait jusque-là. C'est pas possible. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne vont pas aux toilettes et ils parlent jour et nuit. Ce n'est peut-être qu'un sorcier.
Et en tout cas, ces histoires d'avions magiques dont je parlais aussi, je ne les ai pas inventées non plus, puisque depuis qu'il est devenu extrêmement difficile d'avoir un visa en bonne et due forme en Afrique pour l'espace Schengen, et bien ces histoires de sorciers qui voyagent mystiquement se sont multipliées dans les rumeurs qui arpentent les couloirs des villes.
Je ne te parle pas des charlatans qui vendent des visas imaginaires ou bien qui font des prières pour obtenir de vrais visas.
En tout cas, ce qui est dit pendant une heure. On va se passer de guichets, de papiers, de formalités. Avec nous, il n'y aura ni visa, ni droit d'entrée, à part bien sûr la redevance que vous payez.
Vous voulez enchanter l'Afrique? Eh ben allez-y, allez-y, allez-y donc.
de mi fa sol la. Oh yes, si mi yes, si boro. Vlad, enfin, chers auditeurs, les gens qui connaissent la musique du mandingue, ça, c'est un air qu'on joue quand les guerriers retournent au village pour annoncer leur victoire. Mmh. Et c'est ce rythme qu'on joue pour les accueillir.
Et ils dansent comme tu as fait là,
ils dansent la chanson. Ils dansent la poitrine bombée, en levant le bras du vainqueur pour montrer qu'ils ont vaincu à la bataille. Et cette chanson de Djenuba Seck, ça s'appelle Tonkarankao. Ça veut dire aventurier, voyageur. Et elle dit, vous, les Tonkarankao, où que vous soyez, si vous, le voyage, l'aventure vous a donné quelque chose de profitable, si vous en avez tiré un bon bénéfice, n'oubliez pas la mère patrie. Renvoyez une partie de votre avoir, de votre gain à la mère patrie. Investissez au village. C'est une façon de garantir votre lendemain, votre avenir, votre retraite. Et c'est ce qu'elle dit. Ni mon ni ka doni solo, ni ka doni ki fa sola. Oye si ni nye si giye boro. C'est préparer ton lendemain. Et c'est ça, ton Tonkarankao de Djenuba Seck, la malienne.
En tout cas, Solo, un gars qui, comme toi, arrive à danser la danse du guerrier, poing levé, torse bombé, et qui après prend sa plus douce des voix pour imiter Djenuba Seck. Non, franchement, là, c'est trop.
Non, merci, petit frère.
En tout cas, par rapport à ce qui est évoqué dans la chanson de Djenuba Seck, c'est vrai que on part en général pour la famille, partir pour envoyer de l'argent au pays, ça reste la dynamique de l'immigration aujourd'hui encore, et c'était le cas aussi dans les années 60, au début de l'immigration africaine en France. Et Solo, je te propose qu'on passe une partie de cette émission avec Mamadou Konté. C'est un gars que tu connais, je crois. C'est ton aîné, ton doyen. Il est lui aussi du Sahel, même si vous venez pas exactement du même pays, quoi.
Non, on n'est pas du même pays, mais on a le même physique. On le dira jamais assez à nos auditeurs de France Inter. C'est le type sahélien, grand, mince, et généralement, quand on n'est pas peul, c'est généralement la peau très foncée, très noire.
Toi, tu fais ta promotion pour que, si jamais des demoiselles intéressées, c'est petite... ça, non?
Tu veux qu'on dise tout sur la place publique?
Non, allons-y.
Voilà. D'accord. Okay. Mamadou Konté, en fait, les Français, les Parisiens l'ont découvert surtout à travers un événement qui l'a monté, un événement culturel, plus précisément musical, qui l'a monté au tournant des années 80. Et le lieu d'expression de ces concerts, c'était le Chapiteau de Pantin, exactement là où il y a aujourd'hui, qu'on appelle le Zénith, enfin, l'espace
de
la Villette. Et Mamadou Konté voulait donner une visibilité à la création, à l'expression musicale africaine. Et donc, tous les ans, en juin, il faisait venir des groupes africains. C'était pas encore la mode de la world music, et il les faisait jouer dans cet espace, et en profitait pour les passer dans les radios libres, dites libres, qui poussaient comme des champions à l'époque, après l'arrivée des socialistes, au gouvernement. Donc, il a permis à beaucoup d'artistes, comme le Mbamina, comme les Touré Kounda, comme les Bozambo, enfin j'en passe, à montrer leur musique africaine, les sensibilités faites pour des Africains et par des Africains.
Et ce festival s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, Africa Fête. Et aujourd'hui, en fait, alors vous allez me dire, oui, Africa Fête, d'accord, mais quel rapport avec le thème du jour, l'immigration? D'abord, c'est justement que Mamadou Konté, aujourd'hui, travaille en Afrique et en France, des deux côtés, à essayer de travailler sur la coopération culturelle entre les deux pays, à travers des événements qu'il monte, et ici et là-bas. Et puis aussi, c'est que avant de rentrer au Sénégal dans les années 90, Mamadou Konté, lui, il a passé une trentaine d'années en France, tout d'abord comme ouvrier dans les usines, comme pas mal d'autres Maliens. Et justement, c'est au début des années 60 qu'il a quitté son village. Son village, c'est dans la région de Kaï. Kaï, c'est à l'ouest du Mali. Et donc, il a quitté le village, comme beaucoup d'autres, pour tenter l'aventure en France.
La famille voit que la famille Antel, leur fils vient d'arriver de France. Ils sont tels, ils ont acheté 6 vaches, ils ont construit leur maison. Le gars, il s'est marié avec une femme. Bon, ça, leur standing a un peu changé, quoi. Et ça fait que ma famille aussi avait l'envie que j'aille tenter l'aventure pour réellement gagner de l'argent et continuer à aider ma famille à vivre. L'immigration, pour nous, c'était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup de demandes de l'Europe à l'époque. À l'époque, par exemple, je suis pas venu avec une carte de séjour. Je n'avais pas de carte de séjour, je suis venu avec la carte d'identité. À l'époque malienne, j'ai atterri à Marseille avec une carte d'identité malienne. Après, il y a un papier qu'on prend, qui est un contrôle sanitaire. Ces papiers nous permettaient d'aller chercher de l'embauche quand on cherche l'embauche, on présente ces papiers-là, qui est un papier, comme au service militaire, il y a un papier qui dit apte ou inapte. Si tu es en bonne santé et que tu as tel âge, bon, tu es manœuvre, bon, bah, tu peux donner à beaucoup de rendements. Donc, moi, je suis venu pour gagner de l'argent. Pendant tout le temps que j'étais ici, je travaillais pour envoyer de l'argent à ma famille.
Tu te rends compte, Solo, les gars à l'époque partaient sans papier, ils arrivaient à Marseille, et s'ils étaient plutôt en bonne santé, ils pouvaient bosser directement. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on appelle gens d'estin.
Ah ouais, ben à l'époque, la France avait besoin de main-d'œuvre, faut pas l'oublier. Et donc, tous ceux qui arrivaient pouvaient travailler en France et venir en Europe, c'était vraiment facile. Et si mes souvenirs sont bons, ce n'est qu'en 1977 que l'Ivoirien que j'étais avait besoin de carte de passeport pour venir en France. Avec ma carte nationale d'identité ivoirienne, avant 1977, je rentrais et sortais comme je voulais en France.
Ouais, je te parlais justement des clandestins. Ce qui est amusant, c'est que dans l'histoire de Mamadou Konté, avant d'arriver en 66 à Marseille par le bateau et de commencer à travailler, il avait fait une première tentative à partir d'Abidjan justement. Et comme il n'avait pas l'argent du voyage en bateau, il était rentré en clandestin dans le bateau et il s'était fait attraper à Marseille. Parce que, pas parce qu'il était sans visa ou sans papier, c'est parce qu'il n'avait pas payé le bateau. Donc on l'a renvoyé à Dakar, au Sénégal, où il a fait 2 jours de prison là-bas. Puis il s'est fait envoyer de l'argent finalement par la famille et il a fini par arriver à la Régulière.
Et tu disais qu'il était né dans la région de Kayes, n'est-ce pas? Eh bien, beaucoup de Maliens qui venaient en France, et même aujourd'hui encore, viennent de cette région bien connue dans le milieu malien, dans le milieu d'immigration. Et pareil pour certaines régions du Sénégal, très sèches et assez enclavées. Il faut dire que la sécheresse et l'enclavement de certains pays africains poussaient les gens à l'aventure. Tandis que chez moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, où la situation économique était hautement plus favorable, peu de gens partaient vers la France. On ne venait en France que quand on avait une bourse du gouvernement pour venir étudier ici, mais pas à l'aventure. Mais en tout cas, depuis que la situation économique a changé en Côte d'Ivoire, surtout à cause de la guerre depuis 2002, tout a commencé à se gâter.
Ouais, et puis pour parler du plan économique, comme ça s'est arrangé pratiquement nulle part sur le continent, pour ne pas parler des secousses politiques, etc., l'envie de tenter de l'aventure, parce que c'est vrai que c'est un mot court. Trouve assez souvent, cette envie-là c'est presque généralisé. Et on va justement écouter des compatriotes à toi, des Ivoiriens, ils sont très connus ici parce que ce sont eux qui ont signé cette fameuse chanson Premier Gaou.
Oui, les auteurs de Premier Gaou, c'est Magic System. Ce sont des petits jeunes que je connais au quartier, à Marcory, Sikoji. Ils ont grandi là et puis ils ont adopté le Zouglou. Et c'est sur cette musique-là qu'ils racontent les histoires des quartiers qu'ils ont fait Premier Gaou et qu'ils ont connu le gros succès qu'on connaît.
Bon, et Premier Gaou, hein, donc, c'est donc l'histoire de ce garçon qui s'est fait, délaisser par sa copine parce que justement, il lui offrait plus de petits cadeaux, etc. Enfin bref, elle est partie. Et puis, le jour où ça a marché pour lui, qu'il a fait des chansons qui sont passées à la radio, eh ben, la fille, elle est revenue. Et donc, Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou. Le Gaou, c'est celui qui se fait avoir, le naïf, celui
le
qui découvre. Voilà.
Bon, le bousin.
Il s'était fait avoir une fois par la fille. Hors de question de se faire avoir une seconde fois quand elle a voulu revenir alors que lui avait du succès. Et Premier Gaou, comme toutes les success stories, justement, a connu d'autres épisodes. Aujourd'hui, c'est un Gaou à Paris et toujours par le groupe Magic System.
Un Gao à Paris et Magic System sur France Inter. Vous pouvez titrer un Pecno naïf à Paris. En fait, c'est l'histoire d'un immigré qui chante sa désillusion en France et en se tournant lui-même en dérision. Il dit, j'étais allé à Paris, oh, je ne savais pas ce qui m'y attendait, oh. Il savait pas les surprises qu'il allait avoir.
Juste pour dire une chose, c'est que c'est vrai qu'on aime bien dans le Zouglou, en particulier ce genre musical ivoirien, faire les rimes en haut.
Ah,
vous, bien
ah,
en haut.
Ah, ouais, ouais, parce que dans notre parler, c'est tu. Hé, hey, Vlad, tu as entendu ça, oh? Mm. Je quitte Abidjan à 50 degrés, arrivé à Paris, 2 degrés, le froid. Et tellement le froid m'a limé, j'ai oublié Abidjan. C'est une expression pour dire tellement j'ai eu froid là où le froid m'a chicoté, c'est pareil. Mm-hmm. J'ai oublié complètement Abidjan. Tu fumes pas et voilà fumée qui sort de ta bouche. Les Ivoiriens n'utilisent pas beaucoup les articles. Voilà fumée. Voilà la fumée qui sort de ta bouche. La souffrance ne fait que commencer. En fait, pendant l'hiver ici, quand on respire, on voit la buée, enfin, comment on appelle
ça? Comme une fumée, quoi.
Comme une fumée. Voilà. Et tu fumes pas et puis voilà fumée qui sort dans ta bouche. Souffrance ne fait que commencer. Tu quittes chez nous avec beaucoup d'argent. Arrivé là-bas, ça devient petit. À cause de la dévaluation, notre argent, enfin, quand on arrive ici, on convertit, c'est tout petit.
Et puis le coût de la vie ici est autrement
plus cher. On est venu en détail, chacun dans son chacun. C'est-à-dire, chacun est venu par son propre chemin, et c'est ça, on est venu en détail.
Ah, en détail, c'est-à-dire, c'est le contraire de venir en gros.
En gros, voilà. C'est le contraire de venir en gros, en groupe. Chacun est venu, et il n'y a pas de solidarité, personne ne s'occupe de personne. Et mais ça, c'est quel pays, ça? Quelqu'un ne dit pas bonjour. C'est pas que les Français ne disent pas bonjour, mais c'est trop rapide. Je dis salut, salut. Alors que chez nous, ils nous sont romains. Et quand on se moque au docteur, demain, quand on est marrant, il dit bonjour, ça va, et la maman, elle va bien, et le papa, ça va bien. Les chats vont bien, les animaux vont bien. Bon, ça prend des longueurs. Et chez vous, on vient en une fraction de seconde, c'est fini les salutations. Oui. Donc, c'est pour ça que Magic System dit, c'est quel pays ça, où personne ne dit bonjour. Voilà un peu le résumé de l'histoire de ce Gaou immigré à Paris et qui est surpris, enfin, tous les rêves sont cassés, en fait. Voilà son affaire.
En tout cas, c'est beaucoup moins l'Eldorado tel qu'il l'avait imaginé et tel que souvent il apparaît via les télévisions et tous les moyens de communication qu'on a ici. Souvent, très souvent, l'image de l'Occident est plutôt donne envie de venir. Et en tout cas, c'est clair que quand on arrive ici pour la première fois, on peut avoir cette désillusion et puis se rendre compte qu'il y a tout un univers de règles qui fonctionne complètement différemment.
Complètement différent. Et l'étonnement de celui qui débarque, c'est qu'effectivement, les gens ont l'impression qu'ils ne se parlent pas. Tu rentres dans un métro, les gens sont là, enfoncés dans leurs livres, dans leurs journaux, et ne se parlent pas. Alors que chez nous, dans les transports collectifs, on commente l'actualité, on commente le dernier match de football, les histoires des quartiers. Tu ris jusqu'à avoir mal à l'estomac.
Dans le transport collectif, il y a collectif, non?
Oui, et puis ici on arrive, personne ne parle à son camarade. On se regarde même pas dans les yeux. Et du coup, le réflexe de s'appuyer sur ceux de chez soi qui sont ici depuis très longtemps, qu'on connaît, c'est ce réflexe-là qu'on développe. On se replie sur la communauté.
Et justement, 35 ans plus tôt, après... 35 ans plus tôt, avant du coup le Gaou de Magic System, mais justement un autre Gaou arrivé à Paris, enfin juste à côté, à Saint-Denis.
En venant ici, je cherchais le travail. Je cherchais le travail, je ne parlais pas français. Donc je cherchais le travail par l'intermédiaire des amis du village. On habitait dans des foyers. Foyers, c'était des grands réfectoires, des anciennes usines désaffectées que les gens réparaient pour faire des dortoirs, quoi. Donc c'était dans ces dortoirs-là à Saint-Denis. Et j'ai travaillé par l'intermédiaire des gens qui étaient déjà là, qui m'ont introduit dans des entreprises où eux-mêmes ils travaillaient. À l'époque, j'ai gagné à peu près la moitié d'un euro, à peu près, c'est 50 centimes d'euros. Moi, à l'époque, pour moi, qu'on fasse 12 heures, 14 heures, c'était pas un problème, quoi, parce qu'au village, bon, quand j'y vais cultiver au champ, bon, je quitte 8 heures du matin, je reviens à 20 heures. J'étais habitué comme ça. Ici, j'avais pas de problème d'heures supplémentaires à réclamer.
Ça, c'est un peu une des constantes chez les immigrés africains encore aujourd'hui. Quand ils arrivent, en particulier quand ils arrivent du village, c'est cette sorte de soumission, en tout cas le fait de surtout ne pas faire de vagues.
Ah, ouais, de toute façon, les anciens nous ont toujours dit au village, où que tu te retrouves, fais le dos rond. Mm-hmm. Et donc, on cultive ce réflexe de ne jamais faire de vagues. Et, par exemple, moi, quand j'ai eu des ennuis, des retards de paiement avec les acédiques,
Et même Vlad me disait, mais non, tu as des droits, vas-y. Non, faut te calmer, il faut laisser le temps prendre son temps. Et c'est ce qu'il dit, mais c'est qu'on est prêt à accepter même les vexations, parce qu'on s'est dit, on n'est pas chez nous, on n'a donc pas de droits. Et pour ceux qui n'ont pas été très loin à l'école, il y a encore le complexe de la langue qui fait que, bien souvent, ils font vraiment le dos rond, quitte même à subir des vexations. C'est de l'ensemble d'un passé culturel, des problèmes de la langue, ou du fait d'être conscient que quand on n'est pas chez soi, on ne peut pas faire trop de bruit, quoi, parce qu'on risque d'avoir les pieds en nu aussi.
Et tout ça, c'est vrai en tout cas de toutes les premières générations, ceux qui ont vraiment immigré ici ou qui émigrent encore pour faire leur vie, chercher du travail et soutenir le pays. C'est exactement le cas de Mamadou Konté et on va repartir le voir à l'usine où il a fait ses débuts.
Alors à un moment, j'ai compris qu'il y avait un syndicat qui était dans l'usine. Un jour, la personne de la CGT qui est venue me voir, qui me dit, voilà, ils vont faire grève parce que ils se sont rendus compte que les immigrés ne touchent pas les mêmes choses. Par exemple, si tu fais 2-3 heures, c'est-à-dire plus de 8 heures par jour, tu devrais gagner telle somme d'argent. Moi, j'ai dit, mais pour moi, il n'y a pas de problème, je peux gagner les mêmes choses parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je viens d'être embossé là, donc, dit non, de toute façon, vous ne pourrez pas travailler, même si vous voulez continuer à travailler. Si tout le monde fait grève, vous êtes obligé de faire la grève. On a fait la grève dans les premières usines. Bon, là, pour moi, ce qui était important pour moi, c'était mon travail. Mais la fin de la grève, j'ai compris que ces gens-là avaient raison de vouloir lutter, parce que j'avais peur de me mettre dans une grève, que moi, je ne comprends rien, donc d'être embarqué dans une histoire. Mais l'histoire, à la fin, s'est compris que réellement, c'était nécessaire parce qu'on a été augmenté, y compris moi, tout le monde était augmenté. Le rapport avec le patron est devenu autre chose, il y a beaucoup plus de respect pour moi. Donc, j'ai commencé à me rendre compte comment le problème d'exploitation pour moi, c'est à partir de là. Alors, l'argent que j'ai gagné à l'époque, ça servait à quoi? Bon, on habitait dans un dortoir, il faut payer. On cotisait, on avait une cantine où il y avait un système collectif de manger, c'est-à-dire il y avait un cuisinier qui est là, qui, lui, ne travaillait pas à l'usine, mais il était au foyer. Donc on faisait une cotisation globale où le cuisinier faisait ses courses avec ses cotisations. Chaque mois, on lui payait un salaire. Et on mangeait tout ça.
Donc Mamadou Konté vivait au foyer, comme tant d'autres travailleurs africains. Il a parlé du cuistot, Solo, mais au-delà de cette question importante du ravitaillement et de la cuisine, le foyer, c'est tout un univers et toute une organisation.
Ah non, mais la première fois, c'est-à-dire à 20 ans, quand j'ai découvert un foyer africain dans Paris, dans le 20e, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais c'est un bout d'Afrique planté là, au milieu de Paris. Et je suis certain que les 3/4 des voisins ne savent même pas ce qu'il y a là-dedans. Mmh. Mais c'est vraiment... C'est pour moi le lieu qui symbolise le plus la culture de solidarité comme on peut encore en trouver sur le continent. Tout le monde se serre les coudes et même, parfois même on dort par brigade dans les chambres. Pour ceux qui ne peuvent pas se louer un appartement à l'extérieur, on leur offre un lit dans une pièce où il y a d'autres personnes qui dorment avec eux. Et dans ce foyer... Tu as le bijoutier, le tailleur,
le coiffeur.
Ouais, ah, mets de temps en temps. C'est là où c'est le moins cher d'ailleurs. Et bref, tu as toutes les corps d'activité, de petits métiers, le plombier, l'électricien, etc., qui de bouche à oreille va faire des travaux chez les uns, les autres. Et tu retrouves tout ça au sein d'un foyer. Il y a les cuisines, il y a la mosquée pour prier, il y a la pièce où il y a la vente au détail des cigarettes que tu peux acheter à la pige.
Et très tard le soir, justement, quand on n'a plus de cigarettes, par exemple, et qu'on n'a plus beaucoup d'argent non plus, on peut toujours acheter une ou deux cigarettes ou bien une noix de cola.
Tout ça, tu retrouves ça au foyer. Les réunions de projets au village, c'est également là que ça se tient. Toutes les associations des différentes régions, des différents pays, au sein du foyer, s'est réunies pour fixer les cotisations pour la réalisation d'un projet au village. Vraiment, le foyer, c'est un village dans la ville. qui est dynamique, qui vit, où il y a de la joie, où il y a... C'est vraiment... on oublie tous nos soucis, quoi, en fait, au foyer.
Et la plupart du temps, dans les foyers, on trouve des hommes seuls, enfin, qui sont venus seuls, qui continuent d'ailleurs toujours de venir seuls. Pourquoi ?
Parce que, d'abord, c'est plus simple quand on est seul. Comme on dit, quand tu es dans la forêt et que tu es tout seul, il est plus facile de te débrouiller que quand vous êtes plusieurs. D'abord, vous faites du bruit, vous attirez les animaux féroces dans la jungle. Et dans la jungle urbaine, c'est pareil. Et quand on est seul, c'est plus facile de se loger. Et c'est plus facile de vivre au moindre coût. Parce qu'on n'a pas l'obligation de chercher un appartement qui coûte très cher. On peut loger au foyer, dans un petit coin. Et puis, ça permet d'économiser le maximum pour, n'oublions pas la chanson d'intro de Diané Bassek, pour réinvestir au village, dans son pays d'origine, et préparer son lendemain. Et on ne peut pas, on veut pas non plus, pour la plupart de certains d'entre nous, on veut pas pervertir nos enfants au contact de la culture d'ici parce qu'on a peur qu'ils aient la mentalité occidentale. Pour certains, je dis pas pour tous.
Oui, en tout cas pour ceux qui comptent bien rentrer au pays et qui investissent, comme tu disais, sur la retraite.
La plupart de l'argent qu'on gagnait à l'époque, on l'envoyait au pays, c'est-à-dire pour la famille, c'est-à-dire pour construire des maisons, pour nourrir la famille, pour subvenir à certains besoins qu'on avait, mais qu'on ne pourra pas résoudre. C'est un peu comme ça, c'est également participer au développement. Si vous regardez bien aujourd'hui, le 40% de l'économie de la région des Cayes,
au Mali, dans l'ouest du Mali.
Dans l'ouest du Mali, ça vient de l'immigration. Par exemple, on participait à l'installation de puits, c'est-à-dire qu'il faut descendre très, très loin dans la terre pour trouver l'eau. À partir de ce moment-là, il fallait avoir un système mécanique qui nous permettait la distribution d'eau. Ça, on participait à ça. Et une autre période, c'était pour participer au développement de l'électricité. Bon, là aussi, la plupart des dispensaires ou des maternités qui sont installés dans cette région-là aujourd'hui, c'était à l'initiative des immigrés travaillant en France ou ailleurs, mais beaucoup plus en France qu'ailleurs.
Et quand Comté est arrivé en 1966 à Marseille, c'était donc, vous l'avez entendu, avec sa carte d'identité malienne, et quand il a décidé de rentrer à Dakar, ben, il n'y avait pas encore trop de problèmes de papier, de visa, type de séjour, il pouvait faire l'aller-retour assez facilement. Je ne sais même pas si à l'époque on parlait déjà d'immigration clandestine à ce point. Et quand la crise a commencé à s'enliser en France, vous savez, les lois se sont durcies, et justement à ce propos, Mama Sissoko chante Commissariat, qui est une sorte de rappel des artisans du durcissement de ces lois-là.
Il était sabali, 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 il était sabali
Je ne suis pas habitué, je ne suis pas un habitué des commissariats. Brigadier, pardon, ne m'arrête pas, ne m'enferme pas. Jean-Paul, Michel, François, ne m'arrête pas, ne m'enferme pas. Chevènement, Jospin, Chirac, Pasqua, Debré, ne m'arrête pas, ne m'enferme pas. Je ne suis pas un habitué des commissariats. Et voilà que Mama Sissoko, non seulement il s'adresse aux Français ordinaires, Jean-Paul, Michel, François, mais aux politiques, tous ces présidents ou premiers ministres qui ont
fait d'ailleurs, etc., enfin tous les dirigeants qui ont fait ces lois justement à partir du moment où la crise a commencé à sévir ici en France, à la fin des Trente Glorieuses, quoi, dans les années 74, ça a commencé à s'aggraver. Et tout ça, en tout cas, ça se concrétise dans la rue, dans le métro, les gares et ainsi de suite par le fameux contrôle d'identité. Alors, si vous êtes bien blanc comme moi, bah, ça ne va pas vous arriver trop souvent. Mais si ce n'est pas votre cas, eh ben, malheureusement, ça devient une routine assez fatigante. Et justement, notre ami Mama Sissoko, qui a dû peut-être en souper plus qu'à son tour, il a décidé de mettre dans sa chanson une sorte de mise en scène d'un véritable contrôle d'identité.
Bonsoir.
Qui ? Moi ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Oui, ça va.
Bon, je veux tes papiers, s'il vous plaît.
Quoi ?
Je veux tes papiers, s'il vous plaît.
Pourquoi faire ?
Quoi ?
Pourquoi faire ?
Je te demande tes papiers, s'il vous plaît.
Mais monsieur, vous me demandez mes papiers, pourquoi ?
Je viens en France comme ça. On t'a pas dit qu'en France, il fallait des papiers ?
Il y a beaucoup de Français en Afrique.
Je suis venu parler un pays voisin.
Quand je suis venu en France, on m'a pas dit tout ça.
Écoute, je vais voir tes papiers.
Pourquoi faire ?
Pour vérifier, savoir si tu es en règle, c'est tout, c'est simple.
Moi, en règle ?
Oui, en règle, comme n'importe quel citoyen. Je veux tes papiers, c'est tout. De quel pays tu viens ?
Je viens de l'Afrique.
Quoi ?
De l'Afrique.
Je te pose la question, tu viens de quel pays ?
Je suis africain et je viens de l'Afrique.
Et Paul, tu viens voir. Je te demande de quel pays il vient. Il me dit de l'Afrique. Il est fou, hein ? Bon, t'as pas de papier, quoi ?
Je suis un Africain.
De quel pays ? Tu me dis l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi ? Il y a le Mali, le Sénégal, le Congo, la Guinée, le Maroc, etc., etc.
Mais moi, je suis un Africain.
Quoi ? Tu te fous de moi ?
Il faut bien dire. Voilà, c'était le commissariat de Mama Sissoko sur France Inter.
Tout à l'heure, on parlait du profil bas qu'adoptaient les immigrés. Il y a aussi, et c'est révélateur avec la chanson de Mama Sissoko, même s'il le fait avec humour, la peur du contrôle de police. Et je me rappelle que juste avant qu'on démarre cette émission, tu avais perdu ta carte de séjour. Et là, c'était la panique à bord.
Ah, complètement, parce que qui qu'on soit, qu'on ait été à l'école, qu'on soit en règle ou pas, dès l'instant où on perd une pièce d'identité, c'est vraiment la panique. Pour deux choses. D'abord, les contrôles de routine sur la voie publique. Mmh. Et ensuite, nous sommes conscients que nous qui avons des papiers en règle, c'est des papiers qui sont très prisés sur le marché du trafic. Uh-huh. Alors, si on se fait voler ça, on peut retrouver un Koulibaly sur le même 10 euros solo à l'autre bout de la France, alors que moi, je suis ici. Enfin, bref.
Est-ce que vous, des Koulibaly, vous
dites pas? Ah, là, ouais, c'est les Dupont.
C'est pas deux ou trois, quoi.
Non, ce sont les Dupont de l'Afrique occidentale. Et donc, c'est pour ça que, et nous, la première chose qu'on se répète ici, on dit, tu sais comment tu entres dans un commissariat, mais tu ne sais jamais comment tu en sors. Or, le fait de ne pas avoir une pièce d'identité, on craint qu'en cas de contrôle, on soit embarqué au commissariat. Et comme on ne sait pas comment on va en sortir, ça risque d'être le pied devant. Alors, il vaut mieux ne pas...
Toi aussi.
Papa, laisse. Dans mon village, on dit, quand un serpent t'a mordu une fois, quand tu vois un ver de terre, tu fuis comme c'est pas permis. C'est-à-dire que quand tu as déjà fait l'objet de contrôle de tabassage de police, ou que tu sois sur la planète, tous les policiers, tu signes un contrat de non-agression avec eux. Quand ils sont au pôle nord, toi, tu fuis, tu réfugies au pôle sud. En clair, il faut éviter tout risque d'être embarqué au commissariat.
En tout cas, tout à l'heure, on parlait de Mamadou Konté, et on va le retrouver encore une fois. Je n'ai pas été très clair sur son parcours. Il est donc arrivé en 66 pour la première fois en France, et donc juste avec sa carte d'identité malienne, ce qui ne posait pas de problème. C'est en 94 qu'il est retourné vivre définitivement au Sénégal, toujours à faire des projets entre la France et là-bas. Et entre-temps, même s'il a pu faire des allers-retours, il a vécu ici, donc il a eu tout le temps d'observer, justement, en tant qu'immigré, le durcissement de ces lois dont on parlait et à laquelle faisait référence aussi la chanson de Hamas Sissoko. Allez, on retrouve Mamadou.
Moi, ça fait 30 ans que j'étais en France, 5 minutes d'intérieur, depuis Marcelin, à Poniatowski, à M. Pasqua, aujourd'hui M. Sarkozy. Chaque ministre qui est arrivé, il a tenté avec la répression, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que, bon, aujourd'hui, par Internet, on sait tout ce qui se passe en Europe. On sait que l'ouvrier moyen aujourd'hui gagne plus de 1000 euros. Quand c'est ça, et qu'on sait qu'au Sénégal aujourd'hui, les emplois officiels, réels, ils n'attendent pas 1 million, pendant qu'on sait qu'il y a 11 millions d'habitants, quelque part, l'Europe a creusé. Un fossé économique entre l'Europe et l'Afrique qui fait que les Africains viennent ici pour chercher du travail. Je veux dire, on nous traite comme des délinquants, je pense que c'est pas juste du tout, c'est pas convenable, c'est pas correct de continuer à mentir aux populations françaises en leur faisant croire que si l'immigré n'est pas là demain, ils auront un monde meilleur. Non, et aujourd'hui, on veut mener la population française vers le bout du nez en leur faisant croire des choses qui sont fausses. Par exemple, l'immigration sélective, je pense que c'est une erreur. L'immigration choisie, mais que de toute façon, l'immigration, il est choisi. On fera un visa pour venir ici. On choisit à qui on donne le visa, à qui on ne donne pas le visa.
Oui, c'est vrai. On parlait du visa justement avec Mamadou Konté, et c'est vrai que pour avoir un visa dans les consulats de France en Afrique, le parcours du combattant, c'est une expression plus que fémistique, quoi.
Ah non, mais ça prendrait des heures. Alors, je vais résumer. C'est vraiment,
s'il vous plaît,
le
monsieur.
Parcours du combattant. Prenons l'exemple de ma femme qui n'a pas 20 ans. Mm-hmm. 40 balais passés.
Donc, a priori, elle ne vient pas chercher un mari.
Elle vient pas chercher de travail. Elle est médecin. Elle a une formation. Et elle vient pour faire une formation à la faculté de médecine Paris 7, ici. On lui demande.
Oui, attends, parce que je me permets de préciser, Solo, hein, puisque je connais un peu une partie de cette histoire-là,
oui.
Que dans la législation ivoirienne, en tout cas jusqu'à il y a très récemment, pour pouvoir boucler complètement son diplôme et être docteur
reconnu,
titulaire, etc., il fallait venir finir son cursus en France de manière obligatoire.
Obligatoire.
Dans la législation ivoirienne.
Voilà, c'est un accord de coopération entre la France et les pays africains, et la Côte d'Ivoire en particulier. On exige une adresse fiscale ici, donc un loyer tout de suite à avoir. Prouver qu'on a déjà un loyer à Paris ou en France. On exige une assurance aller-retour, une assurance de rapatriement.
Un billet
aller-retour, valable 1 an. Et prouver qu'on a les moyens de vivre en France, c'est-à-dire un minimum de 30 000 francs français, 30 000 lourds, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire 3 millions de francs CFA. Elle a quand même fourni tout ça. Mais on lui a refusé le visa.
Et tu parles même pas des lettres d'invitation du doyen, la faculté ou
du chef de service de la faculté, du service d'ophtalmologie, des frais d'inscription de 380 euros à la faculté de médecine. Mmh. Et ça, c'est un cas de figure où elle est parfaitement, elle ne vient pas. Alors, je vous raconte pas, pour ceux qui ne peuvent pas prouver des éléments de cette dimension-là ou qui n'ont pas le statut de médecin, c'est un vrai parcours du combattant.
Le problème, parfois, avec ces lois dont on a un peu parlé et dont Mamadou Konté parlait, c'est qu'on n'a pas l'impression, avec ce qu'on voit aujourd'hui, qu'elle freine réellement l'immigration.
Non, mais elle ne freine pas du tout. Au contraire, elle les encourage. Parce que quand les gens qui entraient sortaient facilement, J'en suis un exemple vivant. Moi, j'ai fait des études en France, je suis retourné dans mon pays travailler, j'avais des visas valables un an avec entrée multiple en France. Je n'avais qu'une envie, quand j'avais fini ma mission ici, c'est retourner sur le continent. Et tous ceux qui peuvent aller et venir librement, la grande majorité a plutôt envie de rester sur le continent. Pas parce que moi, quelqu'un comme moi, je suis tombé amoureux de la France et des Français. Bonjour le violon.
Mais pour dire, rester,
que, mais pour dire que... vraiment, en termes de qualité de vie, quelqu'un qui a un emploi et en Afrique, la qualité de vie est quand même meilleure, quoi. Je veux dire, le coût de la vie n'est pas aussi cher, les rapports humains ne sont pas les mêmes, et puis les gens préfèrent plutôt à repartir sur le continent.
Ouais, et puis ça pose aussi plein de problèmes pour pas mal d'artistes, puisqu'on parle beaucoup avec eux et d'eux dans cette émission, qui très souvent sont obligés d'annuler des concerts parce que leur groupe n'a pas pu venir d'Afrique, etc. Alors c'est vrai qu'on a dit que en France, ces lois, elles se sont durcies à partir du moment où le pays a commencé à connaître la crise. Mais il faut bien voir qu'au même moment, partout sur le continent, je le rappelle, la crise, elle aussi, s'est aggravée. Et du coup, ça a donné ici, comme là-bas d'ailleurs, avec la crise, des replis xénophobes où tout à coup l'étranger devenait le problème. Et c'est pas toi solo qui vient de Côte d'Ivoire qui me dira le contraire. Du coup, comme il devient presque impossible pour la France d'avoir un visa par voie légale, eh ben on vient en clandestin avec les moyens du bord et on peut entendre ou lire tous les jours ce que ça donne, notamment du côté de Ceuta et Melilla, mais aussi sur les plages des Canaries ou encore en Sicile et à Malte.
Est-ce qu'on vit mieux ici que si on vivait là-bas? Si on parle de questions économiques, oui, on gagne beaucoup plus d'argent ici en travaillant ici. Alors si on veut aider les pays africains à ne plus orienter sa population vers l'Europe, pour revenir chercher l'argent, le travail, l'Europe de Schengen, c'est de trouver la solution sur place. C'est d'aider les gens sur place. Mais de vraies solutions. Pas de solution, mais des centaines de personnes dans l'avion qui revient par pirogue.
Bye. Mani n'y ni pas l'autre. Ouais, bon, je t'ai pas là. Et ne me fais pas de gigave. Je m'en ai espagne, espagne.
Ligue nous à fond. Ligue nous à fond. Ligue nous à fond. Nous pouvons faire un taille.
Journaliste politique, du gudjel, du gudik. Opposant politique, du gudjel, du gudik. Société Yuberi, de Yudanu. ICS, son accoste de Pakistanu. Bespounek, gadjoui, c'est un scandale. Gourdi Ngozi, Dom Gourdi. De Fagrao, li fait au Sénégal. Sache qu'à de l'aïk, gat, n'yop, le Yuban.
Ligue
nous
à fond. Ligue nous dikon. Ligue nous à fond. Nous pouvons faire bataille. Ligue nous à fond. Ligue nous à fond, nous pouvons faire bataille.
Un équipe, ligue nous digon. Sous-nous d'art, nous pouvons faire vos collègues. Douillet, nous y allons, nous voyons. Ligue nous gagne, tu dois le white, il le gagne, mais. Douillet, nous y a caro.
Sénégal, ma pirogue du rappeur sénégalais Didier Awadi sur France Inter et sa chanson dit « Vous m'avez promis que j'aurai du boulot, vous m'aviez promis que je n'aurai plus jamais faim, vous m'aviez promis de vraies occupations et un avenir. En vérité, jusqu'ici, je ne vois toujours rien. Voilà pourquoi j'ai décidé de fuir. Voilà pourquoi je me casse en pirogue. Je jure, je ne peux rester ici une seule seconde de plus. »
Et là, il s'adresse bien sûr à ses dirigeants et il dit « Toutes vos belles paroles, ça c'est le refrain, toutes vos belles promesses, on les attend toujours. »
Tout ce chahut,
ce n'est pas ce que nous espérions. Nos pirogues coulent et c'est nos gosses qui y laissent leur vie.
Allez, on va rester en mer, mais on change d'océan puisqu'on part du côté de l'archipel des Comores, c'est à l'est de l'Afrique, et au nord de Madagascar, donc dans l'océan Indien. Les Comores, ce sont quatre îles qui ont été conquises par les Français et elles furent soumises à un référendum à la fin de l'année 74. Et trois des quatre îles choisirent l'indépendance, la Grande Comore, Mohéli et Anjouan, tandis que Mayotte, elle, décida de rester française. Et peu à peu, ces îles qui partageaient la même culture, alors bien sûr, je parle à grands traits, hein, puisque chacune a aussi ses spécificités, mais en tout cas partageait une culture qui était née du brassage incroyable qui a habité l'océan Indien depuis une quinzaine de siècles. Alors forcément, dans ce contexte-là, chacun a un cousin, un parent qui habite sur une des autres îles. Et avec l'instabilité politique qu'ont connue les Comores indépendantes, vous vous rappelez peut-être entre autres du coup d'état du mercenaire français Bob Denard en 78, et il y en a eu beaucoup d'autres depuis, mais en tout cas à cause de cette instabilité politique aussi, Mayotte est devenue de plus en plus un havre pour tout l'archipel, puisque les hôpitaux y fonctionnent, les écoles et bien d'autres choses encore. Mais parmi ces bien d'autres choses, il y a aussi le contrôle de l'immigration, qui là aussi est devenu de plus en plus sévère à l'égard des autres Comoriens, ceux qui vivent sur les autres îles. Le tout, bien sûr, sur un fond de racisme attisé par des politiciens locaux, la tension monte donc et tous ceux qui débarquent à Mayotte en font les frais. Que ce soit des femmes enceintes qui sont venues accoucher dans des conditions plus décentes, d'autres qui font des visites à la famille, et bien sûr aussi des Comoriens qui sont eux en recherche de bougots. Et c'est tout ce petit monde qui s'embarque sur la grande pirogue du hasard, le temps de traverser les 73 km de bras de mer qui séparent l'île d'Anjouan de Mayotte. Et il y a un chanteur mahorais, c'est-à-dire de Mayotte, qui a d'ailleurs composé une chanson à ce sujet et il s'appelle Mickey Dash.
Usihude ubinadamu waho wako.
Dernièrement, quand j'étais à la Mayotte, j'ai vu ce qu'on appelle le Kwasa Kwasa. C'est-à-dire, c'est une sorte de petite barque de quoi de, normalement, il doit y avoir peut-être 6 personnes dedans. Et il y a une trentaine de personnes, voire même plus, des enfants, de jeune âge, des femmes enceintes, qui prennent ces barques-là au péril de leur vie. Donc je disais, voilà, parce que il faut savoir qu'entre Anjouan, donc l'île qui est la plus proche de Mayotte, c'est Anjouan, et il y a 73 km qui séparent ces deux îles. Voilà. Le soir, la nuit, il y a en plus des passeurs qui font ce business-là. Et que moi, j'ai vu des reportages, peut-être que tu l'as vu, il fait froid et puis ils vont peut-être mourir. C'est-à-dire que 50% les enjoinés se disent soit je meurs, soit j'arrive à Mayotte. Il y en a plusieurs qui arrivent à Mayotte qui sont après refoulés chez eux, après ils reviennent plusieurs fois. Donc il y en a plein qui sont morts dans l'océan aujourd'hui et que personne ne dit rien. Donc c'est ça, c'est pour ça que je disais que c'est en plus des histoires de haine, etc. Et puis en plus de tout ça, de non-acceptation de nos frères d'à côté, il y a aussi ces vies qui sont mises en danger tous les jours et que les Maorais, on a l'impression qu'ils sont en train de ricaner par rapport à ça. Et c'est ça que je trouve que c'est très grave.
Namna yatu lijionao na wananyatu walo karibu vahamu. Wamiraya wa shifaransa suala nyenge misete jesa. Namna yatu bonao asibabu tafauti ya rangi ya bila wala tisita anajirenda au vawasi ya zaki na fiki za kisiasa kula itokao na hike roho yangu kaitoparo ukana kutu. Fabari ni babo, hey,
Là, mais c'est cool.
Les Mahorais eux-mêmes, les habitants de Mayotte, sont assez, comment dirais-je, je ne sais pas si je dois dire ignorantes ou bien mal renseignés, ou ils ont subi une sorte de lavage de cerveau, conséquence de la colonisation. C'est-à-dire qu'ils croient que ce n'est pas des Comoriens, ce n'est pas des Africains, donc ils sont français. C'est-à-dire ils sont français, ils sont voilà, ils sont pas blancs mais ils sont français parce qu'ils ont la nationalité française. Et voilà, donc du coup, ils mélangent tout. Donc pour eux le fait que les autres viennent chez eux au péril de leur vie tout simplement, c'est-à-dire que ils les refoulent vraiment d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a une haine. Je dis pas qu'il faut pas régulariser les entrées-sorties, ça c'est tout à fait normal, mais il y a une façon de le faire. Et puis il y a aussi cette haine qu'il faut enlever entre les Maoris et les Comoriens. Voilà, aujourd'hui, si tu fais insulter quelqu'un à Mayotte, ben tu te dis que tu es un enjoiné. Donc ça devient très grave, c'est-à-dire que moi j'ai fait des ateliers dans les écoles, j'expliquais ces histoires de Comoriens, de machin, tout ça, de Maorais, et puis il y avait un enfant, quand à un moment donné, quand j'ai dit « est-ce que tu viens d'Anjouan ?», il a dit « oui », ben il avait honte de dire qu'il venait d'Anjouan. Donc ça c'est très grave, d'autant plus que même les responsables politiques, notamment le député Mansour Kamardine, les Giraud, les sénateurs, tout ça, ben ils sont en train de, et c'est ça qui est très grave et dramatique, de attiser un peu une sorte de haine entre ces peuples-là, et c'est surtout ça qui est grave. Parce que le peuple, quand tu l'expliques, quand il y a une certaine politique pédagogique pour expliquer les choses, ils comprennent. Moi, j'ai parlé avec plein de jeunes à Mayotte, ils comprennent très bien. Mais le problème, c'est que ça vient un peu de là-haut pour déformer les mentalités des gens, le cerveau des gens, et ça, je trouve ça lamentable.
On est ailleurs, on est toujours à Mayotte en fait, mais c'était le 29 juillet, c'était un autre chanteur qui était invité à se produire, et il était du reste de l'archipel des Comores. Hein. Et pendant ce festival, on entendait le public, justement, pendant son concert, lui crier « casse-toi, dégage », etc. Il a fallu que, justement, un autre artiste maorais très connu sur place arrive pour calmer la population, en demandant aux gens qui ne sont pas contents de quitter les lieux, de partir et de revenir s'ils voulaient après le concert. Et justement, ça c'est typiquement un des petits exemples du racisme qui gâche la fête.
Il faut demander la route, il est là.
On vous la demande, on aura l'occasion de revenir un peu sur ce thème de l'immigration. En tout cas, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Vous écoutez bien France Inter, il est 15h.
Les informations, Bilal Tarabi.
Le complot terroriste déjoué la semaine dernière en Grande-Bretagne avait été cautionné par le numéro 2 d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri. L'information est tombée il y a quelques minutes, elle vient des services de renseignement pakistanais, on n'en sait pas plus pour le moment. Quatrième jour de cessez-le-feu au Liban, le flot des réfugiés continue sur les routes. L'armée libanaise commence à prendre position dans le sud du pays. L'aéroport de Beyrouth a réouvert ses pistes après 5 semaines d'interruption. Et le premier avion civil s'est posé à 13h locale, un vol Middle East Airlines s'il venait de Jordanie. De son côté, l'armée israélienne poursuit son évacuation. Selon des responsables militaires israéliens, la FINUL a déjà récupéré la moitié des territoires contrôlés par l'armée israélienne. La FINUL comprend déjà 2000 hommes sur le terrain et les renforts sont attendus dès la semaine prochaine. Quant à la France, elle était pressentie pour prendre la tête de la FINUL.